de revenir à l'étude de l'évangile de Matthieu. La dernière fois que nous avons parlé de cet évangile, nous nous étions focalisés sur le héros du roi. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, celui qu'on ne doit pas inviter à un anniversaire, parce qu'il va plomber l'ambiance, rappelez-vous. Donc, sa prédication, on en a parlé. Le royaume des cieux, on en a parlé. Ses auditeurs, et notamment les pharisiens hypocrites. Et aujourd'hui, effectivement, je vous propose de revenir à l'essentiel, avec une orthographe particulière, parce que cet essentiel a un nom, cet essentiel c'est Jésus. D'abord une question introductive. Si maintenant le ciel s'ouvrait au-dessus de nous, qu'entendrions-nous ? Une parole d'amour ou une parole de jugement ? Que ressentirions-nous ? Un sentiment de paix ou de la stupeur, des tremblements ? Dans nos églises, nous parlons volontiers d'amour, de grâce et d'acceptation. Mais nous parlons très peu de jugement. Très peu du retour du roi de gloire dans les nuées faisant trembler les nations. Et pourtant, lorsque nous sommes au chapitre 3 de l'Évangile, mais même au chapitre 2, l'un des grands thèmes qui résonne, c'est celui de la séparation, celui du jugement. Nous l'avons vu la dernière fois, en étudiant cet Évangile, Jean-Baptiste surgit du désert et il annonce la venue du Messie. Et il parle, c'est pour ça que ça plombe l'ambiance, de colère à venir, de hache à la racine, de feu qui ne s'éteint pas, de blé et de paille. Autrement dit, la venue de Jésus n'est pas neutre. Elle s'accompagne de bouleversements, de choix. Elle oblige à se positionner. Lisons ensemble Matthieu des versets 7 au verset 12 pour commencer.
Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas.
Yeah.
Voilà qui est pour moi une des incarnations musicales les plus fortes du jugement dernier. C'est Giuseppe Verdi qui, au XIXe siècle, met ainsi en musique cette partie de son requiem qu'on appelle le dies irae, en latin, en français, jour de colère. Cette musique ne secoue, elle fait trembler, elle met l'humanité face au jugement. Le texte qu'on entend derrière, vous avez entendu, est un texte médiéval qui s'inspire des images prophétiques bibliques et notamment celle du livre de Sophonie. Au chapitre 1, au verset 14, nous lisons « Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, proclame exactement cela. Le jour vient, le feu vient, la séparation vient. Quel est l'impact de ces mots sur nous? Est-ce que cela nous dérange-t-il? Est-ce que cela vous laisse de marbre? Ou est-ce que, comme moi, vous tremblez un petit peu quand nous évoquons justement ces mots terribles du jugement? Et pourtant, ces mots sont centraux dans la présentation de l'Évangile. Trop souvent, nous occultons cela dans nos églises, mais le Christ qui apporte le salut ne peut être séparé du Christ qui apporte le jugement. S'il y a une bonne nouvelle, c'est que par contraste, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Alors je ne dis pas qu'il faut, comme dans de nombreuses églises catholiques, des représentations du jugement dernier sur la façade principale de notre bâtiment pour nous accueillir chaque dimanche matin. Au Moyen-Âge, sans doute, l'Église a trop insisté sur cette thématique, et notamment pour faire peur. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Jean-Baptiste nous met en garde. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? On ne peut comprendre le Sauveur, l'amour de Dieu, sa grâce, sans prendre conscience de l'aspect terrible du jugement, qui arrivera inéluctablement. Un jugement imminent qu'on doit regarder en face. Un jugement accompagné d'un appel urgent à la repentance et au changement. Ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui le dit. Plus loin, en Matthieu 25, il y a un écho à ce passage, et c'est Jésus, cette fois-ci, qui parle. Au verset 31, quand il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Si les brebis et les boucs ont remplacé les grains de blé et la paille, il est toujours question ici de séparation. » Et un peu plus loin, nous ne l'avons pas lu, au verset 41, du feu éternel. Le christianisme sans jugement n'existe pas. Car si Dieu ne juge pas le mal, alors il accepte le mal. Il banalise l'injustice. Il laisse le mal avoir le dernier mot. Non, impossible. Habacuc 1, verset 13 le dit, « Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Le jugement est inéluctable. » Par ailleurs, on peut dire quand même que le jugement est une bonne nouvelle pour les opprimés du monde. Les personnes qui n'ont, les victimes de criminels, cette semaine on a beaucoup parlé d'un vil homme, Jeffrey Epstein par exemple, toutes ces personnes qui n'ont pas eu de procès, qui n'ont pas été attrapées par la justice humaine, seront un jour attrapées par une justice encore plus terrible, celle de Dieu. Le jugement de Dieu est donc une terrible nouvelle pour les orgueilleux, les méchants, les hypocrites, les menteurs. Mais le jugement, il était aussi pour moi, pour nous, avant que nous venions à Jésus, bien sûr. Il faut relire Romains 3, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu, ils se sont tous égarés. De notre témoignage, on ne doit pas écarter cela. Le jugement de Dieu, c'est pour tous les pécheurs, donc tous les hommes. Le jugement est donc essentiel, parce qu'il donne tout son poids au salut. Sans le jugement, la croix devient accessoire. Avec le jugement, la grâce devient précieuse. Petite nuance tout de même, doit-on systématiquement parler de jugement, du jugement terrible de Dieu quand on présente la grâce offerte par Jésus-Christ? Ici, je serai contre la systématisation. On le voit ici, Jean-Baptiste, il est cash, direct, parce qu'il s'adapte à son auditoire. Il parle à des pharisiens religieux, arrogants, orgueilleux, menteurs. Ce rappel était plus que nécessaire pour qu'ils comprennent urgemment leur besoin de changement. Mais quand une personne est brisée, persécutée, montrée du doigt, il serait maladroit de lui présenter l'Évangile d'abord sous l'angle du jugement. Nous avons plusieurs cordes à notre arc, et on le voit de nombreuses reprises avec Jésus, quand il parle avec la femme samaritaine, dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, avec la femme adultère, dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, avec Zachée, dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, il n'a pas exactement les mêmes mots que Jean-Baptiste. Il commence par entrer en relation avec les personnes, avec la personne qui est brisée, avant de révéler la vérité avec douceur et d'appeler par contre effectivement à une conversion et à une vie nouvelle. Le jugement est donc incontournable, mais il peut venir au début de notre présentation de l'Évangile, au milieu ou à la fin. Attention juste à ne pas l'oublier. La question n'est donc pas est-ce que le jugement existe ? Doit-on parler du jugement ? Mais la question est où serai-je quand il y aura le jugement ? Où serai-je quand il y aura séparation ? Avec les grains de blé ou avec la paille ? Alors que faire ? C'est ici que Jésus entre en scène. Il commence son ministère dans les versets qui vont suivre.
C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit dans la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser.
Jésus vient au Jourdain pour être baptisé par Jean. Il descend dans l'eau. Pourquoi ? Il n'a aucun péché à confesser. Il n'a rien à purifier. Il est le juste, il est le juge, celui qui tient l'appel à vanner et qui va séparer. Jean-Baptiste lui-même est stupéfait. Et pourtant, Jésus dit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi ». La version seconde est plus littérale et proche du mot grec utilisé ici, aphès, que l'on peut traduire par « permet, abandonne » ou dans la version seconde, « laisse faire maintenant ». Pourquoi Jésus insiste-t-il pour ce baptême ? Parce que Jésus prend notre place. Les pêcheurs qui venaient à Jean-Baptiste descendaient dans l'eau chargés de leurs fautes. Jésus descend dans l'eau sans péché pour commencer à porter les nôtres. Ce baptême annonce déjà la croix. Il est juge, mais il est aussi celui qui se place du côté des jugés. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. 1 Jean 2, verset 1. C'est ça l'Évangile. Revenons quand même à ce laisse-faire. Si la cèse était une discipline olympique, peut-être pas au JO d'hiver, Jean-Baptiste aurait été médaillé d'or à coup sûr. Désert, sauterelle, discipline, radicalité. Et Jésus lui dit, laisse-faire. Sous-entendu, stop, laisse-moi faire. Quel choc pour lui qui faisait absolument tout pour être irréprochable. Nous aussi, parfois, nous sommes comme Jean-Baptiste. Nous aimons en faire plus de discipline, plus d'efforts, plus de performances spirituelles. Mais le salut ne vient pas de nos performances. Il vient de celui qui agit. Rappelez-vous, quand Jésus lave les pieds de Pierre, Pierre refuse. Et Jésus dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Jean 13, verset 8. La base de la foi, c'est de laisser faire Jésus. Lâcher prise, faire confiance. En résumé, la vie chrétienne ne commence pas parce que nous faisons pour Dieu. Elle commence quand nous acceptons de le laisser faire. Humblement, il faut l'accepter. Jean-Baptiste était un champion spirituel. Mais même lui a dû apprendre à lâcher prise. Quand nous voulons prouver, mériter, performer, Jésus nous dit « Stop, laisse-moi faire ». D'ailleurs, Jean-Baptiste a compris le message. Il laissera toute la place à Jésus. Il dira plus tard « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, verset 30. Quelle humilité! Il aurait pu créer son propre mouvement, les foules venaient à lui, mais il montre Jésus et il le laisse faire. Il s'efface pour que le Christ prenne toute la place. Lisons la fin du passage.
Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors que le ciel s'ouvrit pour lui, il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. »
Quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. L'Esprit descend, le Père parle. Les cieux s'ouvrent, car Jésus, bien que pleinement homme, est intrinsèquement lié au ciel. Il est l'essentiel, il est par essence lié au royaume des cieux. L'Esprit descend comme une colombe. Alors pourquoi une colombe et pas un canard? Parce qu'il y a un parallèle à un autre récit du jugement. Je ne sais pas si vous voyez justement ce parallèle. Cet autre récit du jugement, c'est le récit du déluge. Pour voir la fin du déluge, Noé envoie une colombe. Il l'envoie trois fois. La première fois, elle revient. Tout simplement parce que la mer ne s'est pas encore retirée. Il l'envoie une deuxième fois. Cette fois-ci, elle revient, mais avec un rameau d'olivier dans le bec. On lit ça dans Genèse 8. Il attend encore 7 jours. Il renvoie à nouveau cette même colombe, et cette fois-ci, elle ne revient plus. À la fin du déluge, la colombe est donc le signe que la terre est prête à recevoir la nouvelle création. Au baptême de Jésus, l'Esprit, comme une colombe, vient marquer le début des temps nouveaux. L'Esprit de Dieu était depuis longtemps à la recherche d'un lieu de repos sur la terre, comme la colombe après le déluge. Il le trouve enfin en Jésus, l'homme parfait, l'essentiel. Tout en Jésus est pureté et paix, humilité et douceur. Le Père parle enfin. Le Fils avait été présenté dans les versets précédents comme Jésus, littéralement le Sauveur, puis comme Emmanuel, littéralement Dieu avec nous. Il est affirmé ici comme Fils de Dieu. La voix céleste parle de l'amour du Père pour le Fils. Il est attaché par une relation d'amour spécifique. Le baptême de Jésus est essentiel. Il révèle la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême de Jésus est essentiel car il montre aussi l'origine du salut. Le salut ne vient pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Enfin, ce baptême fait aussi écho à notre baptême. Le jour où nous nous sommes baptisés au nom du Fils de Dieu, le Seigneur déclare aussi « Tu es mon enfant bien-aimé ». Nous devenons une vraie fille d'Abraham, un vrai fils d'Abraham. La séparation dont nous avons parlé tout à l'heure commence dès notre baptême, dès ce choix de laisser agir Jésus dans nos vies et de le suivre dans l'eau. Nous avons alors cette assurance grâce au Christ d'être déclaré juste au jour du jugement. N'est-ce pas? Comment aujourd'hui je vis cette filiation? Nous avons été baptisés une fois, mais nous devons continuellement nous souvenir de cette phrase. Tu es mon enfant bien-aimé. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes filles et fils de Dieu, grâce à Jésus qui nous a précédés dans les eaux du baptême. Cela doit alimenter notre but de faire de Jésus notre essentiel. Terminons par une petite expérience. Deux équipes de trois joueuses se font des passes, chacune ayant un ballon. Vous allez devoir compter le nombre de passes que se font les joueuses de l'équipe blanche. C'est parti. Alors, quelle est la bonne réponse ? 16. Bravo. Combien ont vu cet étrange personnage apparaître à un moment donné ? Levez la main. Combien ont vu la couleur du rideau changer ? Passer du rouge à l'orange. Combien ont vu qu'un membre de l'équipe noire est sorti ? Ce test s'appelle le test du gorille invisible. Quel curieux phénomène, n'est-ce pas ? Ne pas voir un objet situé juste sous les yeux. On appelle cela la cécité attentionnelle. Elle a été étudiée il y a longtemps, donc c'est pour ça que certains d'entre vous connaissent ce test, par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Utah en 2011. Ils ont fait passer le même test à 200 étudiants, et la moitié d'entre eux n'ont pas vu le gorille. En fait, ce test, il confirme quelque chose qui est essentiel à mes yeux. Une majorité de personnes est incapable de fixer son attention sur deux événements concomitants. Selon les auteurs de l'enquête, ce test, il explique en partie notamment les accidents de la route. Quand on est occupé dans une conversation téléphonique, parfois on ne voit pas le feu rouge. C'est aussi notre problème spirituel. Notre cécité attentionnelle nous empêche parfois de voir l'essentiel, Jésus. Dans notre vie quotidienne, on peut être très occupé à compter les passes, c'est-à-dire nos œuvres, nos activités, parfois même nos responsabilités religieuses, et dans tout ça, ne pas voir Jésus au milieu de nous, nous faire coucou. Loin de moi de le comparer au gorille, bien sûr. Ne pas voir Jésus, ne pas voir ses réponses à nos prières, ne pas entendre ses « stop, laisse-moi faire ». C'est ça, ne pas faire de Jésus notre essentiel. C'est être absorbé par 10 000 choses, certes importantes, mais pas essentielles. Être pris par tant d'occupations, faire plein de choses en même temps et manquer sa présence. Nous devons porter toute notre attention sur lui et lui seul. Au lieu de compter ses passes, comptons ses bénédictions. Lisons le rapport d'activité. Vous verrez ô combien Dieu a été présent au milieu de nous. Faisons-lui de la place. Laissons-le faire. Nous ne verrons alors que lui. Que lui, notre essentiel, Jésus. En conclusion, le chapitre commence par le feu du jugement. Il se termine par une voie d'amour. Le jugement est réel, la séparation est réelle, mais le juge est aussi celui qui est entré dans l'eau à notre place. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas « suis-je assez bon ? Est-ce que je fais suffisamment pour lui ?» La vraie question est « est-ce que j'ai laissé Jésus devenir mon essentiel ? Est-ce que je le laisse agir ? Est-ce que je m'efface pour qu'il croisse ? Est-ce que je vis comme un enfant bien-aimé du Père ? » Je vous invite à être unis autour de l'essentiel. Prions.
Seigneur, tu es descendu dans l'eau pour moi. Tu as pris ma place. Tu as pris mes fautes. Alors, s'il te plaît, apprends-moi à lâcher prise, à te laisser faire, à faire de toi mon essentiel. Et oui, Seigneur, je ne veux plus être concentrée sur les choses accessoires, mais je veux être centrée sur toi, Seigneur. Amen.
Amen. J'ai prévu de revenir sur un chant qu'on a déjà chanté juste avant. Donc j'invite l'équipe de musiciens à revenir. Et je vous propose de chanter à nouveau « Hosanna ».
nation tremble. Je vois son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna.